Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député Rassemblement National de la Somme. Vous êtes le président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Beaucoup de questions à vous poser ce matin. Le lepénisme est un nouveau marxisme. Voilà ce que vient de déclarer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Vous y répondrez dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de l'Ukraine et que vous puissiez écouter les alertes lancées par Emmanuel Macron après avoir dit qu'il n'excluait pas la possibilité d'aller jusqu'à envoyer des troupes au sol. Il fustige ceux qui pourraient être tentés par la lâcheté. Écoutez. Emmanuel Macron, qu'il disait, nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. L'esprit de défaite rôde. La guerre est revenue sur notre sol. Des puissances devenues inarrêtables nous attaquent davantage. Il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Comment vous l'entendez ?
Mais j'entends ces déclarations comme celles que le président de la République a fait la semaine passée, qui ont été démentis par l'ensemble de nos alliés, à savoir, vous l'avez dit, l'envoi de troupes en Ukraine. La question, c'est qu'au-delà des mots aussi forts ou aussi déraisonnables que soient ceux de M. Macron, où veut-il emmener la France? Où veut-il emmener nos alliés européens? Où veut-il emmener l'OTAN?
Mais c'est ce qu'il veut. Est-ce que Poutine veut entraîner l'Europe?
Prenant, lorsqu'il a fait cette conférence à Paris, lorsqu'il va à Prague faire ses déclarations martiales, donc des déclarations guerrières très fortes que vous avez données, il veut bien emmener la France ou les alliés quelque part. On ne comprend pas où il veut aller, en dehors du fait d'être remis en cause par l'ensemble de nos alliés. Une fois que vous avez dit ça, une fois que vous avez alerté les Français qui sont au courant, ils suivent dans la presse, dans les médias, ce qu'il se passe malheureusement en Ukraine. Où veut-il aller? Quelle solution a-t-il pour l'Ukraine? Reprend-il des négociations diplomatiques? Propose-t-il une grande conférence de paix, pour que les pays européens, justement les démocraties européennes, reprennent la main sur des négociations qui aujourd'hui sont hélas dans les mains de la Turquie, de la Chine ou d'autres puissances hostiles à l'Europe, ou en tout cas qui ne partagent pas du tout nos intérêts? Non. Donc Monsieur Macron, en fait campagne, puisque ce qui est quand même assez grave, voire très grave, c'est les révélations de vos confrères de l'Opinion, dans un article suite à ses déclarations sur l'envoi de troupes en Ukraine, au sol en Ukraine, qui disait qu'en fait, ces déclarations n'étaient pas destinées aux Ukrainiens, n'étaient pas destinées au régime russe, n'étaient pas destinées à nos alliés, mais étaient destinées à agiter le débat politique en France pour, je cite, « piéger le Rassemblement national ». Donc on en est là, c'est-à-dire que le président de la 6e puissance du monde, puissance nucléaire, fait des déclarations
très rétréci. La réalité, soi-disant, le Rassemblement national. Non, mais je peux pas vous laisser donner le sentiment que ces déclarations internationales n'auraient comme seule visée que de vous agiter vous. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup d'entourage ou de proches d'Emmanuel Macron ont laissé entendre que la stratégie, et y compris, on n'a pas besoin d'ailleurs qu'il nous l'explique pour le voir, c'est que pour ces européennes qui sont en train de se dérouler, la campagne est lancée clairement. Vous êtes non seulement l'ennemi public numéro un, puisque vous êtes l'adversaire qui aujourd'hui caracole en tête, mais l'argument principal sur lequel ils veulent croiser le fer avec vous, c'est la question de la Russie. Vous ne pouvez pas dire, pour autant, qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est à Prague hier et qu'il dit « la guerre est revenue sur notre sol, des puissances devenues inarrêtables nous attaquent davantage », l'esprit de défaite rôde, il n'aurait que vous en tête.
Enfin, je veux dire, vous l'avez dit vous-même.
Pardonnez mon respect, enfin, tout de même.
Vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit le Rassemblement national, c'est justement, moi c'est pour ça que je suis scandalisé. Vous avez dit le Rassemblement national serait l'ennemi public numéro un. C'est-à-dire que le principal parti d'opposition en France serait un ennemi public.
Non, alors ça, on voit bien mon expression. Hein,
oui, mais vous l'avez dit. Oui, mais
ça traduit. Excusez-moi,
vous êtes une actrice importante des médias sans aucune flatterie. Le fait que cette expression vous vienne à l'esprit, comme elle peut venir à d'autres, c'est pas ce que vous avez dit vous-même.
Des notes.
Non, mais là vous êtes la vraie bataille. La vraie bataille, elle est en Ukraine. Il y a des gens courageux qui se battent pour leur nation, pour leur patrie, pour leur famille, pour un certain nombre de valeurs du droit international. Eux, ils sont courageux. Monsieur Macron qui fait des déclarations péremptoires, qui raconte n'importe quoi, tant et si bien qu'il est démenti une fois de plus par l'ensemble de nos alliés, y compris des pays qui sont beaucoup plus impliqués en Ukraine, je pense aux pays d'Europe de l'Est ou à un certain nombre d'autres puissances dans le monde, qui ont démenti Monsieur Macron immédiatement. C'est-à-dire que la parole du président de la République n'est plus dans l'intérêt de tous les Français, il n'est plus dans l'intérêt de nos alliés européens et au sein de l'OTAN. Cette parole n'est pas dans l'intérêt même de l'Ukraine, elle est pour des querelles politicienne, comme l'a fait d'ailleurs le lendemain M. Attal, en attaquant d'une manière complètement outrancière Mme Le Pen et l'ensemble des élus du Rassemblement national, qui sont la principale force d'opposition. Je constate que les déclarations aberrantes de M. Macron, qui sont démenties une fois de plus immédiatement par l'ensemble des experts, par l'ensemble des spécialistes, n'ont aucune autre portée, sauf se donner une image guerrière qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais, à essayer de déstabiliser le débat politique français.
Et vous,
c'est lamentable.
Et vous,
c'est
lamentable. En tête, n'avez-vous pas en tête le lien aussi avec la Russie? Vous êtes pro-russe, pacifiste et capitulaire. C'est ce que
vous
dites.
Vous trouvez que c'est des propos normaux?
C'est ce que dit de vous Robert Ménard. Robert Ménard, c'est pas Emmanuel Macron. Robert Ménard, ça a été longtemps votre allié. Il dit d'ailleurs toujours,
enfin, avec des alliés,
il partage
des
la plupart
comme
de
ça.
Vos idées.
Je vous rappelle qu'à la fin de la présidentielle,
il dit de vous, non, ils sont, il l'a dit ici à ce micro,
sur la sécurité.
Pro-russe.
Il est beaucoup invité, ça c'est sûrement qu'on puisse dire.
C'est-à-dire
Monsieur Ménard ne représente aucun parti politique français important. Il est en permanence invité sur les plateaux, y compris pendant la présidentielle, pour expliquer qu'il soutient tellement Madame Le Pen qu'il fallait peut-être pas
ça
voter pour elle.
Ça vous arrangeait quand même
avec... Non, pas du tout. Moi j'étais directeur adjoint de campagne.
Alors
à la fin de la campagne, je vais vous dire à la vérité, vous pouvez vérifier. À la fin de la campagne, on avait même retiré du temps de parole de Marine Le Pen parce que avec des alliés pareils qui passent leur temps à dégommer la candidate pour des intérêts qui sont que Monsieur Ménard connaît peut-être, c'est absolument lamentable. Donc moi, les propos de Monsieur Ménard, ça n'engage que lui. Il a toujours été sur une ligne atlantiste. Il a toujours été pour qu'on intervienne, par exemple, en Irak, dans un certain nombre de pays, on connaît la suite. Donc les propos de M. Ménard en géopolitique, effectivement, ça n'a jamais été la ligne souverainiste et même pas la ligne gaullienne.
Donc quand ça vous arrange, c'est votre ami. Quand ça ne vous arrange plus, vous estimez qu'il n'a rien à voir avec vous.
Madame de Malherbe, est-ce que M. Ménard, même quoi d'ailleurs, quand il était président de Reporters sans frontières, ce qui était tout à son honneur, est-ce qu'il avait une ligne gaullienne sur la diplomatie? Non, il a toujours été pour le droit d'ingérence, il a toujours été
Robert Ménard,
les États-Unis
Ménard
ou d'autres
dit,
fassent l'appui
bien,
de l'OTAN.
Leur naturel pro-russe revient au galop. Ils sont pro-russes, pacifistes, capitulaires.
Non mais, les propos de M. Ménard sont excessifs, donc insignifiants. Si ce qui était dit était vrai, il ne nous aurait pas soutenus. Donc ce qu'il dit est totalement faux, ce sont des propos outranciers, ça relève exactement de l'ambiance que je vous ai dit en France. Là, malheureusement, la vérité est toujours la première victime des guerres. La Macronie a choisi, sur le sujet ukrainien, et je le regrette, contrairement à Marine Le Pen qui tout de suite a fait l'Union nationale sur ce sujet, a joué l'intérêt diplomatique de la France, a joué l'intérêt diplomatique de l'Europe, les macronistes, eux, ont voulu diviser la nation, ont voulu faire croire que dans notre pays, il y avait des forces politiques, parce que c'était au pluriel, puisqu'au début, M. Mélenchon était aussi impliqué là-dedans.
Il recevra les forces politiques.
Oui, oui, mais il
les
reçoit.
Il
faut savoir,
demain,
parce que
il faut savoir, les députés mardi prochain.
Je sais pas, c'est toujours pareil avec M. Macron. Il y a une semaine où on est les grands ennemis de la nation, on est les pires individus au monde, et la semaine d'après, il faut nous recevoir, on est comme tout le monde, nous sommes un parti démocratique, on ne comprend plus ce que veut M. Macron, puisqu'en fait, il n'y a rien à comprendre d'autre que de la politique politicienne. Il est scandaleux, Madame de Malherbe, que d'accuser le principal parti d'opposition de défendre d'autres intérêts que ceux de la nation. Si c'était vrai, il y a des éléments dans le code pénal qui permettraient de nous mettre en cause. Nous n'avons jamais été mis en cause.
Il y a eu ce rapport, cette enquête parlementaire que vous aviez demandé, Jean-Philippe Tanguy, que vous avez présidé. Ses conclusions se sont finalement avérées assez accablante pour le RN, puisqu'il désigne Marine Le Pen, je cite, comme une courroie de transmission efficace du discours russe du Kremlin. Le Rassemblement National présente une singularité dans sa proximité idéologique avec le régime russe
et par les liens financiers
qui feront l'objet d'une analyse détaillée. Vous aviez d'ailleurs annoncé porter plainte.
Oui, j'ai fait.
Porter plainte contre Constance Le Grip, que vous accusez d'avoir fait fuiter ce rapport.
Oui.
On en est où?
Enfin, j'ai pas porté plainte contre Mme Le Grip, j'ai porté plainte contre X pour une fuite de ce rapport, puisque ce que vous appelez une conclusion n'est pas la conclusion du rapport, c'est une phrase qui a fuité avant sa publication pour que aucun journaliste ne puisse vérifier que cette phrase était consolidée par des déclarations. Cette phrase est dans le rapport, mais est-ce que c'est pas la conclusion? C'est une phrase dans le rapport qui n'est pas consolidée par autre chose que les témoignages, excusez-moi, de Madame Loiseau, la tête de liste de Renaissance aux dernières européennes, ministre de Monsieur Macron, et de Monsieur Glucksmann, qui sont nos adversaires politiques. Donc en fait, cette phrase n'est pas tirée des experts, n'est pas tirée des services de renseignement intérieur ou extérieur, n'est pas tirée des services qui assurent la régularité
mais
des élections. C'est très important, n'est pas tirée des déclarations de ceux qui s'occupent de la CNCCFP, qui s'occupent du financement des partis politiques, de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, de Tracfin, le service de Bercy qui surveille les mouvements financiers entre l'étranger et la France. Tous ces services, eux, on dit qu'il n'y avait aucune ingérence étrangère sur un parti politique, et en particulier le Rassemblement National. Donc je vous remercie de parler de ce rapport, puisque depuis cette fuite, personne n'en a parlé dans les médias, personne n'est allé vérifier ce qu'il y avait dans ce rapport. La réalité, c'est que l'ensemble des témoignages sous serment de ceux que nous avons auditionnés, des services de l'État, des personnes, comment dire, en charge directement de la lutte contre les ingérences en France,
le on dit qu'il n'y avait DGSI, pas, absolument, DGSE,
qui lui-même a dit, mot pour mot,
aussi auditionné, hein.
A dit mot pour mot, non seulement qu'il n'y avait aucune force politique ou personnalité politique de premier plan qui était, avait des problèmes d'ingérence, mais qui surtout a dit, pour le
ils ont parlé quand même de liens très particuliers avec soupçons autour de Thierry Mariani.
Non, Monsieur Mariani n'a pas été cité dans la déclaration de la DGSI. Vous pouvez vérifier tout le verbatim
rapport, oui.
Entier, le verbatim. Madame Le Grip a reçu, on a reçu Monsieur Mariani sous serment. Monsieur Mariani a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a eu des poursuites, Madame de Malherbe, contre les déclarations de Monsieur Mariani, qui a assuré ne pas être victime d'ingérence? Non. Par contre, il y a eu des poursuites que j'ai enclenchées contre deux députés macronistes, Monsieur Buntan pour ses ingérences avec la Chine, Monsieur Julien Laferrère pour ses ingérences avec différentes puissances étrangères. Aucun responsable, pardon, du Rassemblement National n'a été mis en cause avec cette commission.
Et alors vous invitez finalement à lire ce rapport.
Je vous invite, moi, aucun problème. Notamment mon avant-propos qui fait des révélations que malheureusement personne n'a repris. Tout le monde peut le lire.
Je le lirai attentivement. Jean-Philippe Tanguy, il y aura ce vote mardi à l'Assemblée. On vous demandera si vous soutenez ou non l'aide des 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Le ferez-vous?
Nous, Madame Le Pen, évidemment, prendra cette position, exprimera la position de notre groupe pour que vos auditeurs sachent. Nous ne sommes pas invités, en fait, à voter sur le fond, mais sur la déclaration elle-même de Monsieur Attal. Donc, nous allons entendre le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Comment il mène le gouvernement?
Quand même, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous allez voter oui ou non l'aide à l'Ukraine? C'est ça la question.
Et c'est Marine Le Pen qui fera cette déclaration.
Vous avez un doute encore à ce
stade? J'ai pas de doute. Je suis président délégué de Marine Le Pen. Marine Le Pen est la chef de notre famille politique. C'est à elle d'arbitrer les grands choix que notre famille politique fait diplomatiquement.
Et vous, vous voteriez oui ou non?
J'ai la position de Marine Le Pen.
Vous n'avez pas d'opinion sur l'aide à envoyer à l'Ukraine?
Ah si, j'ai une opinion que je communique à Marine Le Pen et je soutiens la décision que prendra Marine Le Pen.
Donc à ce stade, vous ne voulez pas nous dire, vous ne savez peut-être pas encore
non,
si vous allez
pas.
Voter oui ou non.
Non, mais je ne sais pas encore la décision que prendra Marine Le Pen.
Vous faire voter elle prendra à l'aide à l'Ukraine.
Mais je n'ai pas donné d'éléments qui pourraient nous faire voter non. C'est Marine Le Pen qui arbitre, comme elle le fera quand elle sera présidente de la République.
Vous êtes quand même numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée nationale.
Mais d'accord, mais je ne suis pas là pour discuter avec vous des grands arbitrages de notre famille politique.
Mais en fait, la question, ce n'est pas l'arbitrage de votre famille politique.
Si, c'est notre famille politique. C'est Marine Le Pen, la chef de notre famille politique, qui, comme elle le fera quand elle serait présidente de la République.
Vous ne pourriez pas soutenir l'aide à l'Ukraine.
Mais nous sommes un parti politique libre, nous faisons nos arbitrages librement, sans aucune pression autre que l'intérêt national pour le moment. Évidemment, nous avons soutenu l'ensemble des initiatives qui ont permis de soutenir l'Ukraine. Nous avons toujours voté au Parlement français, puisque c'est au Parlement français de s'en employer, pas au Parlement européen, les soutiens à l'Ukraine. Nous avons été dans la condamnation totale et immédiate de l'agression russe. Nous n'avons jamais eu aucune ambiguïté là-dedans. Mais pardonnez-moi, Madame de Malherbe, ce n'est pas à moi d'arbitrer des décisions qui sont dans les mains, et c'est bien normal, de Marine Le Pen.
Marine Le Pen, qui d'ailleurs, je le précise, sera donc reçue, je crois que c'est Jordan Bardella,
c'est Jordan Bardella
précisément, à l'Élysée demain, précisément sur cette question de l'Ukraine. Ce matin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, déclare que le lepénisme est un nouveau marxisme. Toujours plus de dépenses, toujours moins de recettes. Qui peut être dupe?
Bah, visiblement, Monsieur Le Maire lui-même, c'est quand on en est amené. Quand on a quand même l'expérience de Monsieur Le Maire, quand on est amené à dire une énormité pareille pour couvrir la catastrophe des comptes publics, la réalité c'est qu'en janvier, le déficit public a atteint 24 milliards d'euros. C'est le record absolu de toute l'histoire de France. Même pendant le Covid, même quand l'État subventionnait la quasi-totalité de l'économie française du quotidien des Français, nous n'avions pas 24 milliards d'euros de déficit. C'est considérable. La réalité, c'est qu'on l'apprend dans le journal Le Monde, le déficit public pour 2023 sera, je cite, bien au-delà de 4,9.
Donc, c'est un mensonge. Il le reconnaît. Dit que ce sera significativement au-delà des 4,9.
Il y a quelques semaines.
Il continue à viser quand même les 3%.
Très bien. Pour la 5-5-là, on en reparlera, mais reconnaissez qu'il y a encore quelques semaines, quand Monsieur Le Maire a annoncé les 10 milliards d'économies, il prétendait que c'était pour maintenir le déficit sous les 4,9. Donc il a encore menti aux Français, comme il a menti aux Français et au Parlement.
Sur les prévisions de croissance, il ment sciemment.
Pour couvrir son incapacité à gérer les comptes publics de la France. Monsieur Le Maire est ministre depuis 7 ans. Donc il nous annonce l'équilibre des comptes publics, je cite, pour 2032. C'est-à-dire que dans Le Monde, Monsieur Le Maire dit les comptes publics seront à l'équilibre en 2032.
Le journaliste d'ailleurs lui dit, mais en 2032, vous serez probablement plus ministre de l'économie.
Et voilà, la seule chose où il a raison, c'est qu'en 2032, effectivement, les comptes de la nation seront sur le beau chemin, puisque je l'espère, les Français auront confié le pouvoir à Marine Le Pen et à des gens qui sauront enfin équilibrer les comptes. Je vous rappelle que cette année 2024, ça fait 50 ans. 50 ans, un demi-siècle, que les comptes publics sont déficitaires. 50 ans de déficit systématique. Il n'y a pas une seule famille
vous
politique.
Vous feriez comment? Voilà ce que dit donc Bruno Le Maire dans cette interview très complète sur la question des comptes publics. Il dit en effet, les 10 milliards d'économies ne sont qu'un début, c'est une première étape. Il dit d'ailleurs, ce n'est pas un coup de rabot, mais un frein d'urgence. Il y a donc urgence, dit-il.
Est-ce que c'est un coup de frein d'urgence sur les comptes publics? C'est un coup de rabot, en fait. C'est la même chose.
Gouverner, c'est savoir renoncer à certaines dépenses secondaires pour financer des dépenses prioritaires, l'hôpital, l'école, la police, la justice, les armées. Le reste, on oublie. Est-ce que vous feriez pareil?
Mais non, mais ça veut rien dire. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut financer qui sont importantes, qui sont pas dans la liste qu'indique monsieur le maire. Le problème, c'est que
si vous continuez à tout financer, vous non plus, vous n'arriverez pas à passer sur les 3%.
Vous savez, moi, depuis que je suis député, on a eu plusieurs réunions à Bercy qu'on appelle les dialogues de Bercy, qui étaient censés associer les oppositions à la bonne gestion des finances publiques. Moi, comme d'autres députés d'ailleurs, nous avons dit on veut bien être associé à la bonne gestion des dépenses publiques, mais ouvrez-nous les comptes, faisons une vraie revue des dépenses et engageons-nous en échange de ce travail à que chaque force politique puisse faire des propositions chiffrées, concrètes sur les dépenses. Or, ils ne veulent pas ouvrir les comptes de Bercy. On ne sait pas exactement quelles sont ces revues des dépenses, nous n'y avons pas accès, et quand on soi-disant fait des réunions, en fait on est réunis, chacun bavarde, chacun donne son opinion, mais on ne travaille pas sur le fond. Ce qu'il faut faire, madame de Malherbe, c'est qu'aujourd'hui, moi comme d'autres, en fait, nous ne savons pas comment est dépensé l'argent des Français. Il y a c'est obscur. On n'arrive pas à comprendre les chemins de dépenses. Comment autant d'argent peut être dépensé, puisqu'on a 55% du PIB qui est dépensé en dépenses publiques, et on ne sait pas où va l'argent. C'est d'ailleurs le sentiment, et vous l'avez souvent sur votre antenne, des Françaises et des Français qui paient 45, 46, 47% d'impôts et qui ne comprennent pas où va l'argent. Donc tant qu'on n'aura pas fait cette grande revue des dépenses, on ne saura pas où l'on va. Par ailleurs, il y a un certain nombre de tabous de la Macronie qui empêchent de réduire les dépenses publiques. Tabous qui sont le coût de l'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût du millefeuille administratif.
La somme des dépenses sociales engagées par Madame Le Pen, de la nationalisation des autoroutes, en passant par la retraite à 60%, sans oublier l'exonération d'impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans, s'élève à 120 milliards d'euros. Et les recettes, ce sont toujours les mêmes, tapées sur les immigrés.
Le chiffrage de Monsieur Le Maire provient de l'Institut Montaigne, qui s'est planté, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le chiffrage de Monsieur Macron, puisque l'Institut Montaigne expliquait que Monsieur Macron était le candidat le plus raisonnable, le plus sérieux, et que 7 ans après, on a 900 milliards de dettes en plus, on a 174 milliards de déficit.
Milliards d'euros.
Donc excusez-moi, non, on n'arrive pas du tout à 100 milliards d'euros. Le chiffrage du Rassemblement National avait été expliqué. Personne ne l'avait remis en cause sérieusement, à part critiquer le fait qu'on voulait gérer l'immigration et qu'on était très méchant. Donc la réalité, c'est que la Macronie ne s'attaque pas aux grands tabous qui représentent des coûts très importants pour l'État, je le redis. L'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût de la fraude, le coût du millefeuille administratif. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Woerth a fait une mission sur la décentralisation récemment pour le Parlement. Et en fait, on avait le droit de discuter de tout, sauf de supprimer des échelons. Donc par exemple, c'est sûr que tant qu'on aura la commune, la communauté de communes, le département, un certain nombre de syndicats locaux, la région, les organismes qui dépendent de la région, l'État, l'Union européenne, vous aurez une multiplication des strates qui évidemment a des coûts. Les normes aujourd'hui, le chiffre qu'avait donné Marine Le Pen à la présidentielle, à savoir des normes qui coûtent plusieurs dizaines de milliards d'euros, est aujourd'hui reconnu. Dans Le Monde, Monsieur Le Maire en parle comme un chantier prioritaire. Le chantier de la fraude, Madame Le Pen, vous voulez créer un ministère particulier pour la fraude, sous les railleries, aujourd'hui, la fraude est une atteinte. Nous avons dit que nous voulons faire les économies. 16 milliards d'euros, par exemple, sur l'immigration. 10 milliards d'euros sur la contribution nette à l'Union européenne. Un certain nombre, nous l'avons pris une hypothèse basse, 15 milliards d'euros, sur l'ensemble des fraudes, y compris les fraudes à la consommation, on aurait pu en parler, sur la grande distribution. Plusieurs milliards d'euros sur les normes, plusieurs milliards d'euros sur les strates administratives. Tout cela a été chiffré, tout cela, on sait où on emmènera la France, et j'espère que les Français nous feront confiance, parce que le système que Marine Le Pen et Jordan Bardella combattent courageusement depuis tant d'années, emmène la France à la faillite. Voilà, nous sommes vers un chemin de faillite. Par exemple, le coût de l'endettement, nous sommes vers un chemin de faillite. Le coût de l'endettement,
François Fillon parlait d'une France au bord de la faillite.
Il avait raison, malheureusement, il n'avait pas pris les mesures nécessaires. Le coût de l'endettement, Madame de Malherbe, c'est-à-dire les intérêts que les Français paient par leurs impôts chaque année, il est aujourd'hui le troisième poste de l'État. Il est en phase pour devenir le deuxième poste de l'État, et avant 2027, il deviendra le premier poste de l'État, entre 70 milliards et 95 milliards, selon les hypothèses. Est-ce que vous imaginez que 70 milliards au mieux des impôts des Français, vont aller financer les intérêts de la dette au lieu de financer la défense, l'éducation, la santé, c'est-à-dire l'ensemble des postes dont parlait M.
Le Maire,
qui
sont censés
être son priorité. La réalité, c'est que la dépense principale dont parle pas M. Le Maire dans son papier, dans son interview, ce sera les intérêts de l'État, de la dette, pardon, et ça, c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité, et s'il avait un peu de dignité, il démissionnerait. Parce que quand on arrive à un tel état d'affaiblissement des comptes publics, après 7 ans de gestion, et qu'on ose regarder les Français droit dans les yeux, non seulement en insultant le principal parti d'opposition en disant n'importe quoi, et en prétendant qu'on va arriver à l'équilibre des comptes publics alors qu'on est dans la pire situation budgétaire au bout de 7 ans, faut quand même pas manquer d'air. Donc si vous voulez, les mensonges de Monsieur Le Maire sont au niveau de son incompétence.
Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée, qui appelle donc à la démission de Bruno Le Maire.
À la dignité, donc la démission.
Sur l'Ukraine, on a bien compris que vous ne savez pas encore mardi si vous voterez ou pas l'aide des 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Il est 8h53.